Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le président turc veut coûte que coûte récupérer le nord de la Syrie pour y installer des réfugiés syriens. Pas de cessez-le-feu, dit-il face aux Kurdes. Notre envoyé spécial à la frontière a rencontré ces réfugiés syriens côté turc, justement, vous les entendrez. Nous irons ensuite à Cherbourg, où les douanes se préparent au Brexit à 15 jours de la date butoir. Toujours pas d'accord à Bruxelles après une nouvelle journée de négociations hier. Et puis, retour sur la polémique à l'université de Cergy-Pontoise. Elle a fiché son personnel en fonction de signaux faibles de radicalisation. Nous y reviendrons dans cette édition. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a donc réaffirmé hier que l'offensive turque dans le nord de la Syrie se poursuivrait jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints, notamment celui de créer une zone de sécurité pour accueillir le million de Syriens réfugiés en Turquie ces dernières années. Qu'en pensent les principaux concernés, les réfugiés syriens? Notre envoyé spécial à la frontière, Mathieu Mondoloni, leur a posé la question. Voici son reportage.
Dans la ville d'Urfa, le quartier syrien s'étend sur une grande rue pleine de restaurants. Dans l'un d'eux, Omar s'active derrière les fourneaux. L'idée de rentrer en Syrie, il n'est pas contre, mais uniquement s'il a des garanties. Avant tout, il faut que nous ayons la certitude que ce soit réellement une zone de sécurité, nous explique-t-il. Il faut qu'on puisse ouvrir un magasin, par exemple, sans qu'il soit bombardé ou que des milices traînent un peu partout. Nous sommes partis de Syrie parce qu'il y avait des armes dans les mains des jeunes, comme des vieux. Il y avait des groupes armés de tous les côtés, l'État islamique, le PKK, l'armée syrienne libre. Je ne rentrerai que si on m'assure que je serai protégé. Dans la boulangerie voisine, Mohamed prépare des manaïches, des pizzas syriennes. Il a fui la ville de Raqqa et ses violents combats quand il avait 14 ans. Il en a 19 aujourd'hui et garde une certaine nostalgie du pays.
Inch'Allah, j'espère qu'on pourra rentrer un jour, mais je ne sais pas quand. Vous savez, c'est mon rêve de revoir le pays. Je n'ai rien à faire ici, je suis un étranger. Je préférerais être chez moi. En plus, la police nous arrête tout le temps. Elle nous demande notre carte d'identité. Elle fouille notre téléphone. En Syrie, nous n'avions pas ça.
Il ne croit pas pour autant à la possibilité de rentrer, surtout depuis que l'armée de Bachar el-Assad s'est déployée de l'autre côté de la frontière.
Je préfère encore que la Turquie contrôle la zone, parce que les Kurdes ou l'armée du régime, c'est la même chose. Ils travaillent ensemble de toute façon. Donc si nous allons là-bas, soit ils vont nous obliger à rejoindre leurs troupes, à servir à leur côté, soit ils vont nous interroger, nous jeter en prison ou peut-être même nous tuer.
Derrière le comptoir, Abdul Fattah, le gérant de la boulangerie, acquiesce.
Moi, je préfère vivre ici, car dans la zone de sécurité, on n'aura pas les mêmes choses. Et puis, je ne crois pas que 2 à 3 millions de réfugiés retourneront là-bas. C'est impossible de trouver un travail, par exemple. Donc, si la Turquie m'autorise à rester ici, je resterai. J'ai un travail ici. Je sais qu'ils promettent que ce sera une zone de sécurité, mais ça sera quand? Ça n'arrivera pas avant un an ou deux.
Sur la devanture, le nom de la boulangerie n'est pas écrit en arabe, mais en turc. Un conseil qu'on lui a donné, dit Abdul Fattah, car quand on est réfugié syrien en ce moment en Turquie, il vaut mieux se montrer discret.
C'était Mathieu Mondoloni avec les moyens techniques de Marc Garvenès à la frontière turco-syrienne. La Turquie qui subit aussi les sanctions économiques américaines. Si le président Erdogan dit ne pas les craindre, la population en revanche s'en inquiète. Pour une éventuelle baisse de tension, le vice-président américain Mike Pence sera à Ankara demain. De nouvelles violences ont eu lieu hier soir à Barcelone entre indépendantistes catalans et forces de l'ordre. Cela s'est passé dans la foulée de manifestations contre la condamnation de dirigeants séparatistes en début de semaine. Ainsi, 40 000 personnes ont manifesté à Barcelone, 9 000 par exemple à Gérone. Le gouvernement espagnol dénonce une violence généralisée. À 2 semaines de la date prévue pour le Brexit, les tractations s'intensifient à Bruxelles. Britanniques et Européens tentent de trouver un accord avant demain, le début du Conseil européen, dernière possibilité pour organiser une sortie du Royaume-Uni. Et pendant que certains négocient, d'autres se préparent concrètement sur le terrain. Hier à Cherbourg, les autorités ont lancé un test grandeur nature avec les douanes dans le port de la ville. Sur les ferries, elles ont vérifié tous les poids lourds venus de Grande-Bretagne. Il en arrive 20 000 par an, rien que dans le Cotentin. Anthony Rimbaud y était.
Les camions sortent en file indienne du ferry et face à eux, des agents font le tri.
You are green, can go to the exit.
Des camions dirigés vers un circuit vert, d'autres suivent une ligne orange peinte sur le sol. Décodage avec Yannick Millet, le directeur général du port de Cherbourg.
Alors vert, ça veut dire je vous autorise à sortir, vous êtes en règle. Et orange, vous avez des contrôles complémentaires à faire à la sortie.
Et chaque chauffeur découvre sa couleur sur le ferry. En fait, les douanes profitent des 4 heures de traversée pour analyser la liste des marchandises déclarées dans chaque camion au moment de l'embarquement en Angleterre. En fonction de la nature des produits ou des éléments envoyés, certains, pas tous, devront se plier à un contrôle plus poussé, comme ce poids lourd emmené dans un hangar spécialement aménagé sur le port. Un douanier inspecte tous les cartons empilés dans la remorque. Le conducteur lituanien fait les frais de cette répétition générale pour le Brexit, un changement aux frontières qu'il appréhende.
Ça pose des problèmes, on perd du temps avec les contrôles.
S'il n'y a pas de problème, ça ne dure que quelques minutes, répondent les douanes. D'ailleurs, assure le transporteur Brittany Ferries, le temps d'escale du bateau n'augmentera pas à cause du Brexit. C'était la priorité de son président Jean-Marie Rouet pour ne pas perdre de clients.
Tous les ports sont en compétition. Là, on rajoute une difficulté complémentaire. Tout ce qui est fait en amont permet de limiter le travail de la douane au moment du débarquement du navire et donc évite que les camions soient en attente de débarquement.
2 ans de réflexion, plus de 10 millions d'euros dépensés pour préparer le port de Cherbourg au Brexit. Et tout est prêt désormais pour un divorce le 31 octobre.
Anthony Rimbaud de France Bleu Cotentin pour France Culture. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est efforcé hier de clore une nouvelle polémique sur le port du voile islamique en France, chez les accompagnatrices de sorties scolaires notamment. Il a réaffirmé à l'Assemblée nationale hier la primauté de la loi ainsi que la nécessité de combattre les dérives communautaires. Et nous reviendrons sur ce débat qui divise au sein de la majorité. Ce sera dans le journal de 7h. La place de l'islam dans notre société, cette question réapparaît dans le débat public avec tous les risques de stigmatisation que cela implique. Exemple à l'université de Cergy-Pontoise en Ile-de-France. Un mail du responsable sécurité de l'établissement a suscité la polémique. Le document visait à détecter les signaux faibles de radicalisation au sein du personnel de l'université. Une liste de ces signaux était proposée, comme l'absence aux heures de prière ou bien le changement de tenue vestimentaire. La direction invoque une maladresse, ce qui ne change rien au tollé déjà provoqué. Orlane François préside la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, premier syndicat étudiant français. Elle était l'invitée du journal de 22h sur France Culture hier soir.
Je crois que ce document, il est plus que discriminant. Évidemment qu'il faut travailler sur les questions de radicalisation, il ne faut pas aujourd'hui les écarter. Par contre, la manière dont ça a été fait, ce n'était pas du tout la bonne manière à aborder. Le document met en place des critères qui sont stigmatisants, qui sont très discriminants envers une catégorie de personnes, et notamment les étudiants, ou bien les enseignants, ou bien les personnels qui sont des pratiquants ou qui pratiquent la religion musulmane, par exemple, puisque c'est vraiment ce qui est aujourd'hui ciblé dans ce document-là. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'on stigmatise autant des gens qui pratiquent une religion, puisque les critères qui sont quand même évoqués, ce sont des critères qui correspondent à une pratique d'une religion, et aujourd'hui, c'est inacceptable. Il faut regarder les critères qui étaient mis dans le document. Le fait de s'intéresser à l'actualité nationale ou internationale était un critère selon le document, un signe faible. Le fait aujourd'hui d'être absent les vendredis matins ou aux heures de prière. Alors oui, on peut être pratiquant, aller prier sans pour autant que ce soit un signe de radicalisation. Et d'autant plus que, attention, on stigmatise parce qu'aujourd'hui, on cible là un type de terrorisme qui est le djihadisme. N'oublions pas qu'en France, il existe, et partout dans le monde, d'autres formes de terrorisme. Le terrorisme d'extrême droite, etc. Et par contre, là, aujourd'hui, dans le document qu'on avait sous les yeux, on n'en parlait pas.
Un des propos recueillis par Stanislas Vazak, signaux faibles de radicalisation, va-t-on vers une société de la surveillance? Débat lancé, ouvert par Guillaume Erner tout à l'heure à partir de 7h40 avec ses invités sur France Culture. La complémentaire santé solidaire était présentée hier par le gouvernement, une fusion de la CMU-C et de l'aide à la complémentaire santé, deux dispositifs qui sont aujourd'hui largement sous-utilisés par tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une mutuelle complémentaire. L'idée est donc maintenant de rendre plus lisible cette aide destinée aux personnes gagnant moins de 746 € par mois. Pour Christelle Dubois, secrétaire d'État à la Santé, cette nouvelle complémentaire solidaire est une étape indispensable pour mieux insérer les personnes en difficulté, dit-elle.
Quand nous avons des personnes qui nous disent que la santé est un luxe, alors qu'elles peuvent avoir accès à cette complémentaire santé solidaire à partir du 1er novembre, mais elles avaient déjà accès à certains droits avant, il faut pouvoir leur expliquer, il faut pouvoir simplifier. C'est l'objectif aussi de cette complémentaire santé solidaire pour deux points. D'abord, on va déstigmatiser, on ne parlera plus de CMU. Le fait aussi de l'ouvrir à un plus grand nombre de publics, de fait, vous êtes pas pauvre et vous pouvez bénéficier de cette complémentaire solidaire, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est aussi de dire que vous allez pouvoir avoir accès à des soins dentaires, hein, à l'accès à ce qu'on appelle nous 100% et dès le 1er novembre et pas attendre qu'on le mette en place pour d'autres publics dès le 1er novembre, parce que quand vous êtes dans une démarche d'insertion professionnelle et que vous avez un problème dentaire ou un problème de vue et que vous ne pouvez pas payer vos lunettes, vous ne pouvez pas aller travailler, vous ne pouvez pas faire les démarches d'insertion professionnelle, et c'est là aussi où cette mesure fait partie de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, c'est aussi de lutter au quotidien avec ces publics-là et les aider à sortir de la pauvreté et de la précarité.
C'était la secrétaire d'État à la Santé, Christelle Dubos, interrogée par Anne-Laure Chouin. La météo de ce mercredi, c'est très simple. Une nouvelle perturbation pluvieuse arrive par l'ouest. Ailleurs, il fera beau avec 13 degrés à Besançon, 15 à Paris et 20 à Nice.